With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Comme on dit, chaque grossesse est bien différente, souvent une différence notable entre la première et la deuxième.
La maternité, c'est un concept flou en fait, et donc on est imprégné de la première expérience qu'on en a, donc c'est difficile d'imaginer qu'une autre expérience est possible. Quand on lui demandait « tu penses qu'elle va s'appeler comment ta sœur ?», elle disait « bah, je pense qu'elle va s'appeler Caca ».
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Agathe ?
Eh bien, je viens vous parler de la naissance de ma deuxième fille et des changements que ça a provoqué chez moi et dans ma famille.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette deuxième naissance ?
Eh bien, cette deuxième naissance, ça a été un grand bonheur à plusieurs titres parce que c'était l'arrivée d'un enfant qui était désiré et qui a été du coup un grand bonheur. Et ça a été aussi pour moi une toute autre expérience de la maternité que ce que j'avais pu vivre lors de ma première grossesse. Et ça m'a permis vraiment de découvrir une autre manière de devenir mère, de vivre aussi l'expérience de l'accouchement et moi une autre identité aussi de mon rôle de mère.
Qu'est-ce qui s'était passé pour vous la première fois ?
Alors en fait, la première fois, déjà je suis devenue mère du coup, avec ma première fille qui a aujourd'hui 4 ans. Mmh. Et en fait, ma grossesse s'était très bien passée et j'étais... je me suis pas posé 100 000 questions, j'ai pris les choses vraiment comme elles venaient. J'ai eu la chance d'être en bonne santé jusqu'à la fin, etc. L'accouchement a été... ça a été assez douloureux, le moment et puis l'après. Donc il y avait déjà ce côté...
Pour des raisons physiques ?
Ouais, exactement, mm-hmm. Pour des raisons physiques. Et aussi dans la manière dont ça s'est passé, je pense, où j'ai eu un peu l'impression d'être vraiment un poulet qu'on ouvrait pour sortir le bébé et puis d'être complètement passif et ouais, de vivre un peu ce moment de manière... limite en passager clandestin, quoi. Donc ce côté déjà physique, c'était particulier, surtout que ça s'accompagne aussi d'une énorme joie au moment de la naissance du bébé. Donc tout est en même temps, et c'est difficile aussi de discerner ce qui relève d'un mal-être physique passager, qui peut être un peu long, mais voilà, de ce qui se passe aussi, qui est en train de se jouer plutôt au niveau de la personnalité, ce que c'est de devenir mère, etc. Et donc ça, c'était un peu le deuxième plan de tous les bouleversements en fait qui sont accompagnés pour moi à la naissance de ma première fille, parce que à l'arrivée du premier enfant, le rôle qu'on a dans notre famille d'origine entre guillemets change, le fait de devenir mère change, et aussi pour moi ça s'accompagnait aussi en même temps j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le modèle maternel que j'ai eu. Et ça s'accompagnait aussi d'un désir d'avoir aussi quand même pour moi un autre mode de maternité que celui que j'avais pu avoir de la part de ma maman. Donc tout ça, ça a mis du temps aussi à infuser à la manière dont, que ça se met.
De faire le tri finalement dans
tout ça. Oui, exactement. Et
vous approprier pleinement les choses.
Exactement. Mmh. Exactement. Et puis après, c'est aussi un autre rapport à la liberté, de, bien sûr, de devenir parent. Donc tout ça, je trouve que c'était beaucoup de choses différentes. Et ça s'est inscrit, en fait, dans un temps qui n'était pas le même non plus, parce qu'il y a le pic de l'accouchement. Et puis, en fait, après, le quotidien qui arrive. Et donc, après la naissance de ma première fille, j'ai eu, au bout de 6 mois, je dirais, quelque chose qui s'est installé d'un enfermement complet, en fait. J'avais vraiment l'impression, littéralement, d'être dans une casserole avec un couvercle et de suffoquer, quoi. Et c'est assez pernicieux parce que ça s'installe et ça devient en fait une nouvelle réalité. Et j'ai eu du mal en fait à identifier que c'était entre guillemets anormal et que voilà, que c'était possible de redevenir la personne que j'étais avant. Et voilà. Et donc du coup, ça a fait pour moi que l'arrivée de ma deuxième fille, c'était en même temps une grande joie et aussi un petit stress, que ça réactive en fait tout ce qui avait été un peu compliqué pour moi à gérer lors de la première grossesse.
Comment vous avez vécu du coup cette deuxième grossesse?
En fait, d'un côté, c'est marrant parce que d'un côté, ça, entre guillemets, ça validait tout le travail que j'avais fait après la naissance de ma première fille, où j'avais vraiment l'impression justement qu'il y avait plein de portes en moi qui s'étaient ouvertes, que les choses étaient plus à leur place, que j'avais aussi beaucoup cheminé et que grâce à ma première grossesse, j'avais beaucoup grandi, j'avais appris sur moi. Je me suis jamais sentie enfermée, par exemple, à l'idée de ce nouvel enfant, de ce qui allait se passer, etc. Et en revanche, j'étais tétanisée du côté, du coup, plutôt physique de la chose, alors que pour ma première fille, c'était même pas une question. À chaque étape, je me suis appuyée sur vraiment beaucoup de monde qui ont tous eu un rôle vraiment hyper important et du coup de trouver les bonnes personnes avec qui se préparer en fait. J'avais l'impression que pour ma première fille, je m'étais préparée, j'avais fait mes 5-6 séances. Enfin, j'avais l'impression que ça allait le faire quoi. Et là, c'est plus que j'ai eu l'impression de trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Et c'est hyper important en fait. C'est pas juste se préparer comme ça de manière théorique, mais c'est se faire accompagner des bonnes personnes sur le projet qui est de mettre au monde l'enfant. Du coup, j'ai fait la méthode Epino pour ma deuxième fille et juste le premier cours, c'était... J'étais tellement stressée et tout que limite les deux premiers cours, c'était juste évacuer ce qui s'était passé la première fois. Enfin, je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire en fait d'en repasser par là, même si c'était pas hyper agréable. Mais bon, au moins ça m'a enlevé le stress d'avoir à le faire le jour J. Je me suis fait accompagner du coup d'un suivi psychologique. J'ai vu une super sage-femme qui m'a vraiment aussi aidée à chaque étape, qui m'a hyper bien préparée qui m'a appris à pousser en fait, là où la première fois j'avais pas réussi à pousser, donc je me disais que j'étais complètement nulle, que de toute façon j'y arriverais jamais, que vu que j'avais pas réussi la première fois, c'était sûr que la deuxième fois ça allait être aussi catastrophique. Et donc elle m'a beaucoup aidée à prendre confiance aussi avec des vraies techniques en fait, et je m'étais rendu compte qu'en fait on m'avait jamais appris la première fois aussi avec les bonnes techniques. J'ai fait aussi de l'acupuncture parce que pareil, la première fois j'avais été déclenchée et ça m'avait un peu traumatisée la manière dont ça s'était passé, donc j'étais obsédée par le fait que ça se reproduise pas. Et du coup, j'ai eu pareil une super acupunctrice qui a pu aussi m'aider à petit préparer bien le corps pour qu'il soit bien prêt le jour J. Et le dernier, c'était une sage-femme qui était spécialisée dans l'hypnose, là aussi pour un peu dépolluer de toutes les angoisses. Voilà. Donc j'aurais jamais cru que tout ça soit nécessaire. Et au début, plus les gens me disaient, ou plus les médecins que je voyais plutôt en qui j'avais confiance me disaient peut-être que ça vaudrait le coup que vous alliez voir telle ou telle personne, je me disais ah non, mais c'est une blague quoi, je sais pas, c'est bon, tout le monde accouche, tout le monde, c'est naturel, ça devrait être facile, je vois pas pourquoi moi je devrais faire tout ça. Et en fait vraiment je regrette aucun de ces heures passées avec ces personnes quoi.
En tout cas là, Agathe, vous nous dites bon, dans le vécu de cette deuxième grossesse il y avait beaucoup d'inquiétudes autour du corps et autour de l'accouchement parce que la première fois ça avait été particulièrement difficile pour vous, et donc vous avez eu besoin finalement d'apaiser toutes ces inquiétudes, l'inquiétude aussi que soit réactivée aussi, ou que les choses se repassent de la même manière que la première fois pour cette deuxième fois, et donc de vous faire accompagner de manière spécifique pour ça. Au-delà de ces questions autour et de vos inquiétudes autour du corps, est-ce qu'il y a eu d'autres questions, notamment par rapport à votre fille aînée, dans le fait d'avoir un deuxième enfant ?
En fait, bizarrement, j'étais pas tellement inquiète de ce que ça allait provoquer chez ma fille aînée. Elle avait 3 ans aussi, donc on a pu en parler avec elle. Je pense que ça a été important pour nous. Ça a facilité les choses de pouvoir lui dire, de pouvoir entendre aussi ce qu'elle avait à dire, voilà, avec les mots. À partir du moment où on avait passé le seuil des 3 mois qui nous angoissait un peu, et que du coup on lui a expliqué qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur, qu'elle allait devenir grande sœur, et qu'on était prêt en fait à ce qu'elle réagisse mal. En fait, elle a bien réagi, et donc on était plutôt en mode mais t'es sûre, t'es pas un peu jalouse quand même, tu sais, ce serait plus juste toi, maman.
C'est quoi bien réagir?
elle a pas manifesté d'intérêt particulier. Donc c'est surtout qu'on a vécu ça avec elle de manière assez naturelle en fait, sans trop lui dire voilà. Après de temps en temps elle disait ah non mais ça c'est ma poussette, ce sera jamais la poussette du bébé, ou quand on lui demandait tu penses qu'elle va s'appeler comment ta petite sœur, elle disait bah je pense qu'elle va s'appeler caca. Bon, donc qui n'étaient pas des signes d'accueil hyper positifs, mais en fait ça nous a jamais vraiment inquiété, c'était plutôt des choses qu'on trouvait rigolotes quoi. Donc,
En tout cas, vous étiez sereine par rapport à ça.
Ouais, exactement.
Et dans le fait d'accueillir des petites marques d'agressivité de sa part.
Exactement, exactement. Mmh. Et ça, pour le coup, c'est vrai que, alors je sais pas si ça joue, mais je sais que ma mère nous avait toujours beaucoup dit à quel point nous, on avait été enfériques, entre guillemets, à chaque naissance de mes sœurs. Donc j'étais hyper prête à vouloir mettre le bébé, qu'elle veuille mettre le bébé dans le four, qu'elle veuille, voilà, j'aime en parler. Donc je me disais finalement, si c'est juste qu'elle veut pas prêter sa poussette, franchement, c'est ok, quoi.
Votre mari, lui, comment il a vécu cette deuxième grossesse et l'arrivée de votre deuxième enfant ?
Il était très heureux parce que c'était on avait vraiment l'envie tous les deux d'avoir une famille. Enfin, c'était quelque chose qui nous rendait vraiment très heureux tous les deux. Et après, comme il avait suivi et vu les moments vraiment difficiles d'après la naissance de notre première fille, je pense qu'en même temps il était hyper heureux et en même temps il avait quand même un petit stress aussi, ou en tout cas une attention particulière sur comment je me sentais qu'il avait pas eu du tout la première fois. Et je pense que lui-même a vécu aussi les choses de manière très différente, parce que je pense que la première fois pour lui le dénouement c'était un peu la naissance de notre première fille, et après bon bah à la limite voilà, elle était née, il était tout à ce bonheur là et il avait pas du tout forcément en tête ce que ça pouvait impliquer pour moi, des bouleversements que ça pouvait avoir pour moi, comme moi non plus je les avais pas non plus à l'esprit en fait, donc ni lui ni moi ne les avions à l'esprit. Et clairement pour ma deuxième fille je pense que c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent, donc il était présent à toutes les séances que j'avais avec la sage-femme, puis je voyais que ouais, que à chaque fois que j'avais des rendez-vous je lui en parlais, donc j'ai eu beaucoup plus l'impression aussi de pouvoir partager ça avec lui que lors de la première grossesse. Il est resté aussi la première nuit, ça c'était en fait hyper important aussi je trouve à la maternité, alors que la première fois pareil je me disais non mais c'est bon, enfin voilà, rentre, je suis bien et tout, et voilà, et c'est parce qu'il s'est passé la deuxième fois et je trouve que c'était important enfin moi c'était important pour moi en fait d'avoir aussi vraiment sa présence sur les premiers moments avec avec ma deuxième fille,
de pouvoir l'accueillir pleinement ensemble, que ça soit déjà tout au long de la grossesse et puis au moment de l'accouchement et dans les heures qui suivent.
Oui, en fait c'était hyper important. C'était hyper important.
Et du coup, après la naissance, comment ça s'est passé l'arrivée donc de votre deuxième fille concrètement, pour votre fille aînée, puis pour vous, comment les choses se sont passées une fois qu'elle était là ?
Une fois qu'elle était là, déjà du coup, en fait, le fait d'avoir un premier enfant, ça force un peu à s'organiser. Chose qu'on n'avait pas forcément fait non plus pour la première fois. Donc on avait un super plan, elle devait aller chez son parrain et tout. Bon, rien ne s'est passé comme prévu parce que elle est arrivée un peu en avance. Voilà, donc finalement notre super orga n'était pas si super que ça. Mais comme on s'était déjà un peu préparé, on avait un peu des super plans B qui ont pu s'occuper de Paloma. Et surtout on lui avait déjà bien expliqué. Que à un moment, maintenant que le bébé était prêt, il allait pouvoir bientôt sortir, et que quand il sortirait, moi je serais du coup à la maternité, que du coup elle irait chez son parrain ou chez ses grands-parents, et qu'ensuite elle viendrait nous voir à la maternité avec le bébé, qu'on repartirait tous les quatre. Donc on lui avait expliqué les choses de manière hyper concrète, et elle nous demandait limite est-ce que j'irai en voiture ou en métro, quoi. Donc elle c'était assez assez précis dans sa tête la manière dont ça allait se dérouler. J'ai accouché du coup le vendredi soir, mais elle est venue à la maternité le dimanche midi. Il y avait ses cousins qui l'attendaient en bas, donc c'était des moments hyper joyeux, quoi. Hyper joyeux. Et on avait aussi du coup prévu le petit cadeau de la petite sœur quand elle est venue à la maternité, le cadeau aussi du retour à la maison. Elle aussi avait fait un petit cadeau à sa petite sœur. Enfin, il y avait un peu des petits cadeaux dans tous les sens pour un peu marquer le coup et qu'elle se sente aussi vraiment faire partie du moment. C'est aussi du coup mon mari et ma fille qui sont venus nous chercher, ma deuxième fille et moi, à la maternité. Donc c'était aussi un moment qu'on a vécu tous les quatre et qui était assez magique et assez. Enfin voilà, j'étais contente de vivre ça aussi vraiment en famille. Et après, les jours d'après, c'était aussi en fait assez simple et naturel. Je me suis aussi beaucoup plus autorisée que la première fois à avoir les états d'âme du baby blues, chose que je m'étais un peu interdite, je pense, lors de ma première fille, parce que je me disais, t'as trop de chance, tout s'est bien passé, tu vas pas en plus pleurer ou faire genre que ça va pas. Là, quand il y avait des gens, même que j'adore, mais que ça me saoulait de voir, du coup, je restais dans ma chambre en pleurant, on avait l'impression d'avoir un peu toute la misère du monde, sans raison, mais du coup, je pouvais un peu en rigoler en dédramatisant le truc juste de le fait de m'autoriser à ressentir ça, quoi. Et du coup, tout s'est fait de manière assez simple, en fait. Et ma fille, et ça, c'est hyper... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment magique de voir aussi le lien entre mes deux filles tout de suite, quoi. C'était assez fou. J'avais pas anticipé, en fait, à quel point c'était dingue, quoi. De voir la petite qui, tout de suite, elle cherchait la grande du regard. La grande qui, du coup, était en mode « Oui, je crois qu'elle a faim. » Enfin, à se faire un peu son porte-parole. Enfin... Donc c'est aussi trop drôle et de voir ces nouveaux équilibres familiaux qui se mettent en place, quoi.
Est-ce que dans le temps, il y a eu des manifestations ou des réactions chez votre fille aînée?
Elle a eu en fait une rentrée scolaire un peu, enfin voilà, elle dormait moins bien, elle était plus en demande de nous voir, etc. Donc je sais pas trop si c'était lié à l'école ou à l'arrivée de sa petite sœur et peut-être un petit peu aux deux. Donc plus de troubles du sommeil, quoi. Qui n'était pas forcément une bonne nouvelle pour mon mari et moi, mais bon, c'était surtout l'aspect, ouais.
C'est-à-dire de troubles du sommeil.
Ben, elle voulait pas se coucher. Enfin, voilà, elle voulait rester avec nous. Elle voulait pas s'endormir tant qu'on s'endormait pas. Elle se relevait 10 fois la nuit parce que elle avait un soif. Elle a envie d'avoir un gant sur le visage. Elle trouvait qu'il faisait déjà jour. Elle trouvait que c'était pas normal qu'on dorme parce qu'il était trop tôt. Enfin, voilà. Donc du coup, c'était. Ça, c'était un peu compliqué. Après, je pense qu'on n'avait pas aussi, nous, vraiment retrouvé un rituel de sommeil qui était adapté avec la naissance de ma deuxième fille. Donc voilà, quand on a retrouvé un peu, quand nous, on a un peu ressorti la tête de l'eau et qu'on s'est dit, bon, comment on fait? Alors, il y a l'heure des bébés. Donc voilà, donc Octavie, elle va se coucher à cette heure-là. L'heure des grands-enfants et puis l'heure des parents. Comme ça, il y avait du coup un peu un nouveau rythme qu'elle comprenait et où elle se disait, oui, c'est vrai, je suis pas un bébé, mais je suis pas non plus papa et maman, quoi.
Donc il a fallu quand même un peu de temps pour recadrer finalement que chacun aussi prenne sa place puis recadrer les choses, trouver voilà, de nouveaux repères, notamment autour de l'organisation, autour du sommeil.
Oui, complètement.
Ok, merci beaucoup Agathe. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on aille rejoindre Carole Brianchon, notre experte. Bonjour Carole Brianchon, vous êtes psychologue clinicienne psychothérapeute, vous êtes formée au psychotraumatisme et vous pratiquez l'EMDR, vous exercez en libéral dans le 15e à Paris et puis par ailleurs vous exercez aussi à l'hôpital Sainte-Anne. Alors comme vient de nous témoigner Agathe, l'arrivée du deuxième enfant, c'est un deuxième bouleversement qui suscite des questions, des inquiétudes. Alors pour Agathe, beaucoup des inquiétudes autour de la grossesse et de l'accouchement parce que pour elle, la première fois, ça avait été difficile. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous remarquez chez les parents que vous accompagnez?
Oui, tout à fait. Alors bonjour. Effectivement, une deuxième grossesse, donc comme on dit, chaque grossesse est bien différente. Donc il y a souvent une différence notable entre la première et la deuxième pour un même parent. Alors là, ce qui est intéressant chez Agathe, c'est qu'on voit qu'elle a pris pas mal de temps, en fait, pour vivre les choses à sa manière, avec l'expérience qu'elle avait de sa première grossesse. C'est pas toujours le cas. Parfois, une deuxième grossesse, c'est aussi une grossesse pour laquelle on a moins de temps et moins de disponibilité psychique et physique. On est parfois plus fatigué, étant donné l'aîné dont on a à s'occuper. Donc voilà, ces différences peuvent effectivement amener parfois des sentiments de culpabilité ou de nostalgie par rapport à une grossesse antérieure pour laquelle on avait plus de temps pour s'organiser, se projeter, rêver, même rien faire du tout.
Ouais, moi, le nombre de patientes que je reçois voilà, autour de cette question de la deuxième grossesse voilà, sont souvent en effet beaucoup dans la culpabilité, la nostalgie, ont l'impression d'être déjà une mauvaise mère pour ce deuxième enfant qui va arriver parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir de temps à lui consacrer.
Alors, effectivement, donc tout n'est pas une question de temps, hein, bien sûr, dans l'investissement affectif et psychologique qu'on a par rapport à l'arrivée d'un enfant. Il y a des parents, d'ailleurs, qui me disent que à la fois, ils ont l'impression d'avoir moins de temps et en même temps, ils se réconfortent en se disant que leur deuxième enfant va bénéficier d'un parent plus mûr, avec déjà une expérience, avec peut-être parfois moins d'anxiété et puis moins d'attentes aussi démesurées qu'on peut projeter sur un premier enfant qui est censé être un enfant un petit peu parfait, dont on rêve. Le deuxième enfant, bah, on sait que c'est un bébé, ni plus ni moins, et qu'il sera ce qu'il sera.
C'est un peu moins l'inconnu.
C'est un peu moins l'inconnu.
Moi, j'observe aussi chez les parents que j'accompagne que le vécu chez le père aussi peut lui aussi... souvent, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais l'arrivée d'un deuxième enfant, ça peut aussi venir les inquiéter, les bouleverser, que ce n'est pas forcément facile pour eux aussi. Et puis, souvent, là, d'autant plus, parfois, ils investissent beaucoup la première grossesse. Et puis, la deuxième, il y a un peu un sentiment de déjà-vu. Et du coup, ils peuvent être plus en retrait. Ce qui, parfois, du coup, pour la femme, du coup, est aussi un peu difficile. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez aussi observer, Carole ?
Tout à fait. C'est très fréquent, effectivement, que le futur papa ait une difficulté d'investissement par rapport à quelque chose qu'il a déjà connu, qu'il a déjà vu, ce qui se vit assez différemment chez la mère, puisque la mère, quelque part, la magie de la grossesse opère à nouveau, puisque c'est beaucoup plus prenant sur le plan physiologique, sur le plan hormonal. Donc évidemment, la mère se retrouve un petit peu plus rappelée à sa maternité dans toutes ses dimensions. Le père, évidemment, naturellement, est plus extérieur à cette dimension-là. Et donc, il peut y avoir effectivement un petit peu plus de recul par rapport à cette deuxième grossesse. Alors, merci Agathe de nous apporter l'exemple de votre mari qui inversement lui a été vraiment à vos côtés pour cette deuxième grossesse. Probablement que c'est quelque chose dont vous aviez parlé ensemble, de cette nécessité que vous aviez d'être auprès de lui dans les différentes étapes, dans les différents rendez-vous. Donc on voit aussi que bien sûr ça peut se passer autrement que ce qu'on entend habituellement.
Oui, Agathe, vous nous disiez voilà toutes vos inquiétudes par rapport à l'accouchement, et puis vous nous avez dit pour la première fois voilà que ça avait été un bouleversement identitaire pour vous, et que vous aviez peur voilà de retraverser ce moment un peu difficile après la naissance. Voilà, faut pas oublier que chaque grossesse, chaque naissance vient réactiver sa propre histoire, et que ça peut s'être très bien passé la première fois et se passer avec plus de difficultés la deuxième fois, que ça soit pour le père ou la mère, et inversement, c'est ce que vous nous avez dit, Agathe. Agathe, vous nous avez dit aussi que finalement, vous n'aviez pas trop de peur ou d'inquiétude, notamment par rapport à votre aîné. Parce que moi, j'entends beaucoup de mamans dire voilà, qu'elles ont peur de ne pas être à la hauteur, d'être débordées, de ne pas aimer ce nouvel enfant. Alors, la question un peu de la place que vous nous disiez aussi, Carole, par rapport au père, voilà, comment faire de la place aussi quand on a investi un premier enfant, beaucoup. Mm-hmm. Voilà, beaucoup de pères, j'entends aussi, disent « mais comment je vais aimer finalement ce deuxième enfant ?» Alors, pour la mère, il y a peut-être quelque chose de plus simple du fait voilà, de cette dimension physiologique et biologique.
Oui, alors effectivement, du côté, c'est peut-être, alors c'est un petit peu difficile de parler en général, mais comme ça, spontanément, je dirais que c'est peut-être une inquiétude qui est plus paternelle que maternelle, hein, le fait d'avoir cette inquiétude de ne pas aimer, ou en tout cas d'aimer moins ce nouvel enfant. Parfois, c'est une inquiétude qui est liée évidemment au lien particulier qu'on a pu créer avec l'aîné, qui est un enfant avec lequel on vit depuis parfois plusieurs années, qui peut être un lien assez subtil, notamment pour les enfants qui ont acquis le langage, avec lesquels on peut avoir une relation tout à fait riche. Donc c'est parfois un petit peu difficile pour les parents de se projeter dans à nouveau un lien parent-nourrisson, parent-nouveau-né, avec une communication qui sera ce qu'elle sera, et de se remettre dans une autre forme de langage, en fait, avec son enfant.
L'arrivée d'un deuxième enfant, c'est pas du tout anodin. Ça vient réactiver toutes ces questions-là. Et qu'il peut y avoir aussi des enjeux importants. Selon vous, Carole, quels peuvent être les enjeux?
Alors, les enjeux, donc, ils sont à la fois, comme vous l'avez cité, Mathilde, identitaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent un petit peu réactiver son histoire familiale, en fonction aussi de la place, sa propre place dans sa fratrie, ou en tout cas aussi de la représentation qu'on a du deuxième enfant, celui qu'on appelle parfois pour les familles nombreuses l'enfant du milieu. Donc, il y a aussi des attentes et des inquiétudes particulières par rapport à cette cet enfant-là. Et puis, c'est aussi un moment où on se prépare à perdre une forme d'équilibre qu'on a acquis à trois, avec un aîné qui parfois a acquis une certaine autonomie. Donc voilà, il faut rebattre un petit peu les cartes, avec un retour en arrière hein, sur les habitudes prises pour se réadapter à un être qui va arriver avec une très grande dépendance. Donc on reconstruit la place de chacun dans la famille. Et puis, bien sûr, des attentes particulières en lien avec une deuxième grossesse. Donc, la machine à fantasmes se remet en marche. Ça fait partie aussi un peu de la magie de la grossesse. Parfois, la mère va souhaiter réparer ou apaiser une première maternité difficile. Donc, moi, c'est ce que je constate parfois avec des parents qui viennent avec des expériences traumatisantes d'une première naissance ou d'une première suite de couches. Donc là, c'est des choses qu'on peut travailler en amont.
C'est un peu d'ailleurs ce que nous a dit voilà, Agathe, finalement, dans la manière dont vous avez vécu cette deuxième grossesse, l'importance que ça a été pour vous de vous faire accompagner, de vous préparer. C'était voilà, un moyen qui n'est pas de répétition et justement de pouvoir un peu réparer et découvrir la maternité autrement.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir de... Enfin, la maternité, c'est un concept flou, en fait. Et donc, on est imprégné de la première expérience qu'on en a. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'une autre expérience est possible et que la première expérience soit pas juste égale au concept de maternité. Mais c'est vraiment le cas, en effet.
Oui, et à travers ce que vous nous avez dit, vous dites bien voilà, que aussi l'arrivée de ce deuxième enfant, il est très conditionné par rapport à ce qui a pu se passer la première fois, conditionné dans le sens par rapport aux inquiétudes, aux peurs, aux questions qu'on peut avoir en fonction de la manière dont a été vécue l'arrivée du premier enfant, déjà. Agathe, vous nous disiez, donc, après le premier trimestre, vous avez annoncé à votre fille aînée qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Alors ça, c'est souvent une grande question. Quand est-ce qu'il faut le dire? Quand est-ce qu'on l'annonce à l'aînée?
Alors, au niveau de l'annonce, donc là, c'est vraiment un sujet qui est très intime par rapport à la dynamique familiale. C'est aussi un sujet qui va dépendre des premières expériences, alors de la première expérience de grossesse, ou parfois des premières expériences de grossesse antérieures qui peuvent amener plus ou moins d'anxiété sur le bon déroulement de cette grossesse à venir, et du coup, des questionnements sur quand est-ce qu'on l'annonce. Qu'est-ce qui se passe pour un aîné s'il se passe quelque chose avec cette grossesse? Donc là, je crois que c'est vraiment à chaque famille de réfléchir en son sein sur le moment qui leur paraît le plus opportun dans le couple pour se sentir prêt à en parler avec l'aîné. Parfois, ça c'est un consensus un petit peu commun, les parents décident qu'après l'échographie si rassurante du premier trimestre, c'est le moment où, voilà, comme s'il y avait une sorte de feu vert médical et où on peut en parler avec un aîné, bon.
Mais on peut aussi en parler avant, si on en a envie.
Alors voilà, bien sûr,
et
on
besoin.
Peut aussi en parler avant, parfois, parce que les aînés sont suffisamment grands aussi pour percevoir. Alors bon, l'aîné perçoit assez souvent, en fait, hein, avant l'annonce, qu'il se trame quelque chose, même avant, parfois, que la grossesse soit avérée, puisqu'il y a une sorte de projet conjugal très excitant autour de cette prochaine grossesse. Et les enfants, sans du tout savoir exactement de quoi il en retourne, suppose que quelque chose va arriver. Donc, d'ailleurs, je me souviens que j'en discutais avec une directrice de crèche qui nous disait que bien souvent dans la dernière section, donc les grands de la crèche, ils arrivaient à percevoir en fonction du comportement des enfants ceux chez lesquels il allait peut-être se passer quelque chose, parce qu'en fait ils montrent des signaux, voilà. Alors c'est des tout petits, donc d'agitation ou d'agressivité ou d'excitation en tout genre, voilà, à des moments qui précèdent l'annonce ou qui la suivent tout juste.
Oui, et puis j'ai envie de dire même des bébés. Moi, je vois des mamans venir avec leur bébé en consultation. Alors, bébés qui ont parfois déjà quelques mois. Et d'un seul coup, elles font part d'un changement très brutal chez l'enfant. Et c'est arrivé plus d'une fois qu'il se trouvait que la maman était à nouveau enceinte. Mm-hmm. Voilà. Donc, même les bébés... Alors, évidemment, plus
Bien
un
sûr.
Enfant est grand, plus il va avoir aussi la capacité de pouvoir le nommer, le dire. Mais même un bébé peut réagir à ces changements et en percevoir quelque chose, même s'il ne le comprend pas comme nous, on l'entend, les adultes.
Tout à fait.
Je pense également à toutes ces situations, quand je vous disais, voilà, on peut l'annoncer aussi plus tôt, lorsque la maman est très malade durant le premier trimestre.
Oui, effectivement. Alors là, c'est important, je trouve, d'en dire un mot à l'aîné, parce que ça peut être inquiétant, une maman malade. Parfois, les mots de la grossesse, ils sont vraiment très bruyants, hein, voilà, avec des nausées, une fatigue majeure, éventuellement des vomissements, même à répétition parfois. Alors que ça n'est pas grave, ça peut être très impressionnant pour un jeune enfant. Donc là, c'est peut-être important de lui dire ce qu'il se passe, tout simplement, pour éviter des hypothèses qui seraient inquiétante pour lui, et puis pour partager aussi cette nouvelle qui est aussi joyeuse, hein, parce que du coup c'est pas forcément facile à gérer de voir des choses difficiles chez soi et puis en même temps une forme d'excitation et de joie.
Bien sûr. Oui, on en a parlé dans un épisode de parentalité sur les maux de la grossesse, où il y a une maman qui est venue témoigner du fait qu'elle vomissait énormément et plusieurs fois par jour. Donc en effet, l'importance là d'en parler aux aînés, d'expliquer pourquoi, que c'est impressionnant mais que c'est pas forcément grave.
Tout à fait.
Il y a aussi toutes ces situations où lorsque les enfants posent des questions, alors on disait, voilà... que très tôt, les enfants peuvent percevoir et comprendre qu'il se trame quelque chose, même s'ils n'arrivent pas forcément à dire que c'est l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Moi, souvent, je souligne quand même l'importance de ne pas mentir. Voilà, que si l'enfant pose des questions ou dans son comportement manifeste un changement, que ça peut être justement l'occasion de lui en parler, de nommer les choses, de dire les choses. Et en tout cas, un enfant qui poserait, plus grand, qui poserait clairement la question, est-ce qu'un bébé va arriver ? Voilà, si c'est en route, bah, c'est important de lui dire que oui.
Mais
que ça peut être encore fragile, que ça peut être un peu encore incertain, si c'est dans les prémices de la grossesse et que les parents voilà, peuvent se sentir pas tout à fait sereins. L'importance de dire la vérité. Les questions souvent des parents, c'est qu'est-ce qu'on dit ? Comment on le dit ?
Alors, qu'est-ce qu'on dit ? C'est bien d'y avoir réfléchi à deux en amont. Alors, je crois que ça vaut pour tous les âges. Il faut essayer de faire simple. Je ne vais pas donner de phrases toutes faites, parce que je trouve que c'est très important que chacun puisse trouver, effectivement, en son foyer, les mots qui leur paraissent appropriés. On peut donner quelques repères de temporalité. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que si l'annonce est très précoce, on peut aussi l'évoquer un petit peu au conditionnel, en faisant part aussi du désir parental. On aimerait beaucoup que dans quelques temps, un enfant arrive, un nouveau bébé arrive, et puis probablement ça va être le cas, hein, on espère, voilà. Et puis voilà, quelques repères de temporalité par rapport à un petit peu au stade de développement de l'enfant, de ce qu'il peut percevoir, ce qu'il peut comprendre. Donc ça peut être simplement, il arrivera après ou avant le Père Noël, ou après les vacances habituelles chez la grand-mère, voilà, ou quand on verra des fleurs dans tel jardin, bon voilà. On se sert un petit peu des acquisitions de l'enfant pour lui permettre de se projeter sur le plan temporel. Bon, mais il ne faut pas non plus trop se tracasser avec ça. Les enfants, ils vivent aussi beaucoup dans l'ici et maintenant. Et c'est ça qui est précieux pour eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une maman avec un gros ventre, ou en tout cas avec quelque chose dans le ventre, même si ça ne se voit pas beaucoup. Et aussi de leur permettre de s'ancrer sans nécessairement se projeter à tout prix. Hein.
Oui, là, je pense d'ailleurs à tous les livres. Maintenant, il y a beaucoup une bibliographie très, très importante, justement sur tous les livres qui permettent aux parents justement de réfléchir, de trouver les mots sur comment annoncer. Et puis avoir le livre dans la bibliothèque, ça permet, après l'annonce, voilà, que si l'enfant a envie ou besoin d'y retourner, généralement ils savent choisir les livres dont ils ont besoin dans la bibliothèque. Est-ce que, Agathe, c'est quelque chose que vous aviez fait, d'acheter peut-être quelques livres pour votre fille aînée ?
Oui, on a eu Choupi, une petite sœur. Donc la petite sœur s'est aussi beaucoup appelée Fanny quand on consulte pas le prénom. Et en effet, ouais, des livres pour voir un peu l'intérieur du ventre. Et c'est marrant parce que je me rappelle que ma fille aînée, la première réaction qu'elle a eue quand on lui a envoyé la photo de sa petite sœur qui venait de naître, c'était « Mais pourquoi elle est toute nue ?» Parce qu'elle s'était imaginé une maison avec son lit dans mon ventre. Enfin, elle avait tout son petit imaginaire en place, et elle trouvait ça hyper curieux que finalement, dans la maison qui était mon ventre, sa petite sœur n'ait pas de vêtements. Donc c'est là où on s'est dit « Ah ouais, quand même, ça a dû travailler pendant les 6 mois qu'elle avait avant. »
Alors, du coup, ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'Agathe dit, de ce qui s'est mis en place au niveau de l'imaginaire de son enfant, c'est que c'est une dimension très importante pour les enfants et qui est important à préserver. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'envahir avec l'intimité du couple et puis avec aussi la réalité absolue, factuelle en tout cas, de la grossesse, c'est-à-dire sur le moment des échographies. Alors c'est un moment qui est important pour les parents. C'est avant tout un rendez-vous médical, hein, donc je pense que c'est important aussi que ça garde cette dimension-là, qu'il n'y a pas forcément lieu donc d'y inviter un jeune enfant, ni même de lui montrer les clichés au décours, oui. Hein, parce que c'est le confronter à quelque chose qui est très très loin de ce qu'il est susceptible de projeter sur ce petit frère ou cette petite sœur.
Et que ça peut être très inquiétant d'ailleurs pour lui, déjà pour des parents, de décoder une image échographique, c'est pas toujours simple et ça peut être source d'angoisse, alors pour des enfants encore plus.
Bien sûr.
Bon, alors peut-être des enfants plus grands, pré-ados, les choses seraient différentes, mais en tout cas pour des enfants petits. Agathe, vous nous avez dit donc que vous avez mis plein de choses en place durant la grossesse pour vous faire accompagner, vous, voilà, pour préparer l'arrivée de votre deuxième fille. Est-ce que durant ce temps-là, votre fille aînée a eu des questions particulières ou entre finalement le moment d'annonce et le moment de la naissance?
Oui, elle avait pas mal de questions. Alors, beaucoup sur comment va s'appeler ma petite sœur. Donc ça, c'était un peu son obsession. Donc on lui disait, bah, écoute, elle nous dira quand elle sortira, parce qu'on n'était pas encore hyper décidés nous-mêmes. Et puis des questions super pratiques il est où son lit? Montre-moi où est son lit dans ton ventre. Et elle va sortir comment voilà, c'était surtout, je pense, pour elle, la manière dont elle se représentait les choses. Mais du coup, sur des sujets qui n'avaient pas forcément, en effet, ni de validité, on n'avait pas de discours médical à apporter, c'était juste être un peu, voir son imaginaire, entrer dedans avec les notions qui nous semblaient les plus, en effet, les plus simples et puis les plus cohérentes par rapport à ce qu'on imaginait, qu'elle s'imaginait, elle, quoi.
Oui, en tout cas, là, elle était déjà dans quelque chose d'une anticipation, une préparation des changements possibles. Et ça, la question notamment de l'espace, de l'organisation de l'espace, c'est quelque chose qui peut être un point parfois un peu sensible, alors surtout lorsqu'on n'a pas que les enfants vont être dans la même chambre, par exemple. Comment concilier finalement une place pour chacun, voilà, que l'aîné ne se sente pas pleinement envahi dans son espace à lui. C'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à mettre en place.
Oui, tout à fait. Alors, parfois, les enfants seront amenés à partager la même chambre. C'est quelque chose d'ailleurs qui peut tout à fait réjouir l'aîné dans un premier temps. Alors bien sûr, ils ne réalisent pas nécessairement les contraintes que ça représentera aussi quand en fait ce petit bébé pourra s'accaparer à son tour l'espace. Mais peu importe, dans un premier temps, c'est en général plutôt une dynamique positive vers la fin de la grossesse que de préparer un coin pour ce petit bébé. En aidant bien l'aîné à lui démontrer à quel point son espace reste son espace dans la chambre, le matériel simplement avec un tapis ou des caisses de jeu ou voilà, et puis un espace pour le petit nourrisson et c'est aussi un moment d'accueil en général qui est assez qui est vécu de manière assez joyeuse par par l'aîné.
Oui, et puis voilà, le fait de faire participer l'aîné aussi dans on va réorganiser la chambre. Si tel est le cas, et lui, voilà, de le faire participer. Où est-ce que tu veux mettre ton lit, le lit du bébé, voilà, qu'il soit aussi présent. Je crois qu'il y a beaucoup de parents, souvent en voulant bien faire, changent tout quand l'aîné n'est pas là. Et puis l'aîné va découvrir que toute sa maison a été modifiée. Voilà, et souvent, je dis aux parents que j'accompagne, mais si vous, on changeait tous les meubles de place et puis vous rentrez chez vous et rien n'est à sa place, ça, vous ne serez peut-être pas content et ça serait peut-être angoissant. Donc d'où l'importance de le faire en présence des aînés et puis de les faire participer. Ça peut être un moment de partage convivial.
De les faire participer, effectivement, c'est formidable, c'est très joyeux en général. Et puis, peut-être de ne pas le faire trop trop prématurément. Voilà, parce qu'après, c'est un petit peu le désert des Tartares. Hein, donc, tout le monde est prêt. Voilà, la chambre est tirée à quatre épingles. Et puis, en fait, se tient un temps indéfini, pour, en tout cas pour l'enfant. Et on finit par avoir du mal à croire qu'il va se passer quelque chose.
Il y a même des parents qui le font après la naissance, parce qu'ils se disent, le bébé va dormir à côté de nous dans la chambre, dans la chambre parentale. Donc, finalement, on fera, quand le bébé ira dans la chambre avec son frère ou sa sœur aînée, à ce moment-là, on fera les modifications. Quand vous dites, Carole, sur le fait de pas organiser les choses trop prématurément, en tout cas, souvent les parents, alors, en voulant préparer absolument leur aîné, vont en parler tout le temps. Là aussi, il y a peut-être quelque chose d'un équilibre, voilà, de l'annoncer, d'être attentif tout au long de la grossesse aux manifestations de l'aîné, quand il a besoin peut-être qu'on en parle, et notamment, c'est sûr, quand le ventre sort, voilà, se voit. Mm-hmm. Souvent, là, les enfants vont venir davantage interroger, voilà, soit par leur comportement, soit par des mots. Mais de trop en parler, ça peut aussi être un peu angoissant pour les enfants.
Oui, ça peut être un peu angoissant. Et puis, en fonction de l'âge, il faut vraiment respecter la temporalité de l'enfant. C'est-à-dire que parfois, alors les parents sont vraiment très prêts à en parler, donc ils ont prévu une petite cérémonie d'annonce. Et puis, en fait, ça tombe un peu comme au fond d'un puits. C'est-à-dire que, bon, l'enfant reçoit ça et puis il passe à autre chose et il demande qu'est-ce qu'on mange pour le dîner. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu l'information et qu'il ne se passe pas quelque chose. Moi, parfois, ce que je dis aux parents, c'est que ça peut être important d'être présent. Alors déjà, de choisir un petit peu le moment de son annonce. Pourquoi pas le faire le matin, pour que l'enfant ait le temps de mûrir un petit peu des questions qui parfois ne vont arriver que le soir ou le soir d'après ou encore le surlendemain.
Pas d'annonce juste avant d'aller se coucher.
Alors, on essaye d'éviter. Voilà, surtout, enfin, je dirais en règle générale, et puis a fortiori avec les enfants jeunes, pour lesquels ça va perturber le sommeil d'une manière notable. Donc, voilà, pas d'annonce avant le coucher, et puis d'être présent, peut-être de s'organiser pour que ce soit les parents qui soient présents et non pas un babysitter ou autre, pour les soirs à venir. Voilà, pour être là quand les questions vont surgir. Parce que c'est pas forcément quand on prend l'enfant entre quatre yeux en lui disant « Alors, est-ce que tu as envie de parler de ce fameux petit frère ou petite sœur ?» Bon, ben, il se passe pas toujours grand-chose. Et puis, en fait, ça surgit à un moment un petit peu inattendu. Donc, c'est bien d'être là, ce que je conseille, voilà, parfois, d'être là les soirs qui suivent l'annonce pour pouvoir accueillir le fameux « Mais au fait, comment on fait les bébés ou autre ?» qui va nous prendre de court. Mais voilà, au moins, ce sera le parent en question et pas quelqu'un d'autre.
Là, ce que vous nous dites, Carole, ça m'évoque aussi tous ces parents qui parlent devant l'enfant, alors souvent à la famille, aux amis, voilà, qui annoncent à tout le monde qu'il va y avoir un bébé, mais sans l'avoir dit directement à l'enfant, mais en présence de l'enfant, devant l'enfant. Et qui parfois s'étonnent que l'enfant va changer de comportement ou en manifester quelque chose. En tout cas, je crois que c'est important. On peut l'annoncer aux proches, mais si on en parle devant l'enfant, de lui en dire quelque chose, de ne pas aussi le laisser tout seul avec ça.
Bien sûr. Alors ça, c'est vraiment caractéristique de, enfin, je trouve, de la période où l'enfant a acquis le langage, mais on ne sait pas à quel niveau, de compréhension il en est. Donc il y a toujours une période comme ça où les parents continuent, de parler en présence de l'enfant en pensant que il n'est pas forcément en mesure de comprendre. Et c'est des habitudes qui persistent, alors qu'en fait l'enfant se sent peut-être mis en dehors d'un processus qui va perturber vraiment son intimité. Donc là, c'est important. Là, la parole va être très réconfortante et très réparatrice par rapport aux symptômes que va présenter l'enfant dans ces moments-là.
Donc, quel que soit son âge, il en comprend ou il en perçoit quelque chose. Donc, si on en parle devant lui, il faut aussi lui en parler. En tout cas, être attentif à ça. Agathe, vous nous disiez, quand vous l'avez annoncé, puis tout au long de la grossesse, finalement, que votre fille aînée a accueilli ça avec beaucoup de joie, mais aussi avec un peu d'agressivité, quand même. Vous disiez, quand vous lui demandiez comment elle voulait s'appeler, qu'elle vous disait caca. En tout cas, cette agressivité, elle est, j'ai presque envie de dire, presque nécessaire, en tout cas normale. Et d'ailleurs, vous l'avez accueillie, Agathe, avec cette sérénité-là. Et c'est le signe quand même que les enfants perçoivent qu'il se passe quelque chose, qu'ils intègrent cette réalité-là. Quels peuvent être les différents types de réactions, Carole ?
Alors, les réactions, elles vont varier, bien sûr, en fonction de l'âge de l'enfant et puis aussi un petit peu du cadre que vont porter, que vont poser les parents sur cette expression de l'agressivité. Alors, comme vous disiez, Mathilde, effectivement, l'agressivité, elle est normale. Elle est sous-tendue, d'ailleurs, par tout un inconscient collectif. Donc, les parents vont beaucoup se projeter dans des réactions agressives de leur enfant, avec parfois beaucoup de craintes. Dans le livre de la Genèse, donc Caïn, qui est le premier fils d'Adam et Ève, tue son frère Abel, hein, en plus dans un contexte de jalousie, en tout cas d'envie. Donc ça fait partie vraiment, c'est le premier crime de l'humanité, hein, c'est le premier meurtre en tout cas de l'humanité.
Le fratricide.
Le premier fratricide, voilà. Donc ça fait partie de l'histoire du christianisme et du judaïsme. Hein. C'est aussi une anecdote qui est reprise dans le Coran. Donc voilà, c'est vraiment un inconscient collectif très puissant qui agit là. Et les parents, en général, vont s'atteler à cette tâche d'éviter à tout prix cette agressivité qui peut être absolument mortifère dans une cellule familiale. Dans un premier temps, on va plutôt accueillir effectivement l'agressivité qui sera verbale, avec des mots différents en fonction de l'âge de l'enfant, ou même avec des démonstrations physiques, de colère, d'agitation, de perturbation du sommeil. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut que les parents puissent se préparer et dans une position aussi d'acceptation pour que l'aîné ne soit pas inquiet lui-même aussi de cette propre agressivité qui surgit.
Oui, en tout cas, l'annonce d'un petit frère, d'une petite sœur, c'est beaucoup de joie et puis c'est beaucoup d'ambivalence. Voilà,
c'est
aussi
beaucoup d'ambivalence, tout à fait.
Tout son monde qui va changer et donc c'est les manifestations de cette ambivalence, notamment par l'agressivité, pour ça je disais nécessaire, voilà, dans le sens que ça dit bien que l'enfant prend en compte la réalité et se prépare aussi à ses futurs changements et que ça c'est quelque chose qui est plutôt positif.
Bien sûr. Et en fait, le lien fraternel et le lien de solidarité entre les frères et sœurs, c'est pas une donnée à la naissance. Ce qu'on perçoit à la naissance de l'affection de l'aîné envers un cadet, c'est alors non pas que ce soit pas authentique, mais parfois ça se joue aussi par mimétisme avec les parents. Comme tout le monde se comporte gentiment avec ce petit bébé-là, pourquoi pas faire la même chose puisque ça paraît être le comportement adapté. Mais le véritable lien fraternel, les enfants auront à le construire ensemble, entre eux, à l'avenir. Les parents, eux, ont la responsabilité de poser un cadre à ces échanges, à cette relation, et à ces échanges très précoces. Et puis les enfants auront aussi leur chemin à faire. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas tout contrôler. Et recevoir l'agressivité de son frère ou de sa sœur aînée, ça n'est ni bien ni mal. C'est juste une donnée de l'équation de la vie avec laquelle on compose.
Il y a aussi beaucoup de parents qui, voilà, avec les deux, une fois que les deux enfants sont là, vont essayer de trouver des stratégies, des outils pour occuper les aînés quand ils doivent s'occuper des seconds. Et là, je pense notamment à la question des écrans.
Il y a évidemment des moments où on ne peut pas se couper en deux. Donc, on se retrouve effectivement, en tant que parent, à devoir à la fois s'occuper du nouveau-né et puis canaliser d'une certaine manière l'aîné. Alors parfois il y a cette idée des écrans, évidemment, hein, de mettre l'aîné devant un écran le temps du biberon ou le temps du bain du petit. Alors ça a plusieurs inconvénients, hein. Je vais avoir du mal à trouver des avantages, si ce n'est voilà, matériel évident. Ça ne permet pas à l'enfant de trouver lui-même des ressources pour s'occuper seul dans ces moments-là, pour faire appel à son imagination, à sa créativité, pour ouvrir lui-même tel placard de sa chambre, pour aller chercher un jouet. Voilà.
Oui, ça ne lui permet pas de développer son autonomie, voilà, ce dont on a parlé dans plusieurs épisodes aussi, voilà, l'importance d'aider les enfants à développer leur autonomie, l'écran va empêcher ça.
Tout à fait. Donc ça ne lui permet pas de développer son autonomie, ça ne lui permet pas non plus d'exprimer sa frustration quant à ces moments-là. C'est des moments qui sont difficiles, on doit patienter. Un nourrisson, ça peut mettre une heure à boire un biberon, donc c'est très long pour un aîné. Donc c'est bien qu'il puisse le dire et qu'on puisse aussi l'exprimer. Ça crée souvent des disputes au moment d'arrêter l'écran. Bref, c'est un petit peu une bombe à retardement dans le quotidien de la famille, finalement. Le mieux, c'est évidemment de trouver les moyens d'être soutenu par l'entourage dans les premiers temps, justement, pour ces moments un peu difficiles, notamment le fameux 18-20 dont vous serez peut-être amené à parler bientôt. Hein. C'est des moments où voilà, faut pas hésiter à demander, bien sûr, au deuxième parent ou voilà.
Trouver d'autres relais. Bien sûr. On n'a pas parlé des régressions qui sont très importantes au moment parfois de l'arrivée, en tout cas chez les aînés, au moment de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Est-ce que c'est quelque chose, Agathe, que vous avez pu observer chez votre aîné ? Par exemple, des aînés qui vont redemander un biberon s'ils n'en prenaient plus, ou qui vont demander d'être portés comme un bébé, qui vont jouer au bébé. Et ça, parfois, c'est pas toujours facile non plus à supporter pour les parents qui comptaient sur l'autonomie acquise chez l'aîné pour pouvoir être plus disponible pour le bébé qui arrive. Mais voilà, là, je crois aussi d'où l'importance d'accueillir ces mouvements-là qui sont souvent transitoire, voilà, que les choses mettent du temps aussi pour s'installer. C'est un changement pour tout le monde, pour l'aîné, pour les parents. Chacun va devoir retrouver sa place et que ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, se donner aussi le temps que les choses s'apaisent. Voilà, aussi.
Oui, et puis l'aîné, on valorise beaucoup la place de l'aîné, le fait d'être grand, hein, et c'est une très bonne chose. De toute évidence, il va aussi rapidement se rendre compte qu'il y a beaucoup d'avantages à être un bébé. Hein, donc, et d'ailleurs, on peut en parler, puisque, bien sûr, on va essayer d'éviter de tout ce qui est de dire, voilà, tu fais ton gros bébé, ou bah, c'est nul d'être un bébé, puisque quand on est un grand, on arrive à faire ceci ou cela. Bien sûr que non, c'est pas nul d'être un bébé, sous plein d'aspects, c'est formidable. Et puis, on essaye aussi d'avoir un discours, encore une fois, respectueux à l'égard de ce bébé-là. Donc, voilà, on accepte le mimétisme avec le bébé, les régressions, et puis on se montre compréhensif.
Ce que je propose souvent aux parents que j'accompagne, c'est s'ils ont des photos ou un livre. Parfois, voilà, des parents qui ont fait un petit livre au moment de la grossesse, la naissance de l'aîné, de reprendre ça, de reprendre les photos. Bah, toi aussi, tu as été dans mon ventre. Toi aussi, je t'ai donné le biberon, je t'ai allaité. Toi aussi, voilà, je t'ai porté. Toi aussi, tu as dormi dans le lit à côté de papa et maman. Voilà, de reprendre aussi tout ce qu'on a fait avec lui, dont il ne se souvient pas, en tout cas, de souvenirs conscients. Et que, voilà, on fait pareil avec le petit frère ou la petite sœur, mais lui aussi, il a eu ça. Parfois, c'est quelque chose qui permet d'apaiser. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire avec votre fille ?
Oui, en effet, c'est ce qui m'avait été conseillé et c'était un super conseil. En effet, on lui avait un peu remontré, mais sans en faire un truc très formel, hein, mais juste, on lui avait dit, bah, tiens, regarde, voilà, toi, ton petit lit à la maternité, comment il était, voilà, ton premier petit pyjama. Et en effet, moi, en plus, j'allaitais au début, donc je me disais, bon, j'ai pas envie que mon aîné se sente rejeté, parce que, bah, dans les faits, du coup, on est quand même assez au contact du bébé pendant ce temps-là. Et du coup, on lui avait dit, bah voilà, ça va être exactement comme ce qu'on avait fait pour toi. Au début, bah voilà, c'est un allaitement, et puis après, ce sera le biberon, et puis après, ce sera peut-être la crèche. Enfin voilà, on avait essayé un petit peu de lui expliquer que ce serait la même logique, en tout cas, qu'on essaierait de mettre en place pour les deux enfants. Et du coup, mon aînée, en revanche, allaitait elle-même ses poupées. Donc ça, c'était un autre sujet où je me disais, bon, j'ai hâte de passer au biberon, quoi. Mais du coup, en effet, je pense que ça a permis qu'elle se sente pas lésée, en tout cas, du temps du coup qu'on passait avec sa petite sœur, parce qu'elle savait qu'on l'avait passé aussi avec elle.
Merci beaucoup, Carole, et merci beaucoup, Agathe, pour tout ce que vous nous avez dit, voilà, autour de l'arrivée de ce deuxième enfant, voilà, qui est source de souvent quand même de beaucoup de joie, mais qui peut susciter aussi des inquiétudes, des questions, et puis l'importance vraiment de la préparation pour soi en tant que parent, et puis de préparer aussi son aîné pour que les choses se passent de manière la plus sereine possible. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Carole, est-ce que vous avez des choses à recommander, des lectures ou un conseil ou quelque
oui,
chose
alors
pour
moi,
les parents.
Je voulais recommander l'ouvrage. Alors, c'est pas directement lié avec notre sujet, mais je pense que ça peut beaucoup aider dans cette période-là. L'ouvrage de Jocelyne Robert, qui est une écrivaine québécoise et qui a écrit Parlez-leur d'amour et de sexualité. Donc voilà, c'est un ouvrage sur les sentiments, mais aussi simplement le corps et la sexualité. Donc en fonction des âges, ça peut être intéressant dans les familles.
D'accord. Alors moi, j'aimerais quand même citer quelques livres pour enfants.
Moi, je recommande souvent « Et dedans, il y a, et après, il y aura », voilà, qui est un livre qui permet à l'enfant, voilà, qui doit ouvrir des petites portes, voilà, dans la valise, qu'est-ce qu'il y a, et puis après, dans le ventre de maman, qu'est-ce qu'il y a, de pouvoir se représenter les choses. Et dans « Après, il y aura », bah, après, il y a des choses qui changent, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas. Voilà, deux livres de Jeanne HB qui sont super, puis il y en a plein d'autres, « Vous êtes mes préférés »,« Je t'aimerais quoi qu'il arrive », qui eux deux sont plus sur l'amour, voilà, le fait que les parents ont un deuxième enfant, mais pas parce que le premier a été décevant ou pas satisfaisant, mais parce qu'ils ont trouvé ça tellement super qu'ils ont envie de recommencer. Il y a aussi Un amour de petite sœur, d'Astrid Desbordes, J'attends un petit frère, une petite sœur de Catherine Dolto, et puis Choupi, Petit Loup et tous les autres qui également ont eu beaucoup de petits frères et de petites sœurs. Vraiment merci à toutes les deux. Merci Agathe d'être venue témoigner de votre vécu et puis aussi de celui de votre fille aînée suite à la naissance de votre deuxième fille. Merci Carole Brianchon. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute à Paris dans le 15e. Merci d'être venue partager avec nous votre expérience.
Merci.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.